Est-ce qu'on peut, justement, on va voir, puisqu'on a parlé de new management public, bon, est-ce que du point de vue administratif, l'administration ne fonctionne pas comme entreprise, peut-elle fonctionner comme entreprise? Et la politique, point d'interrogation. Bon. Toujours est-il que sur les thématiques et sur la manière de faire, il y a plus qu'un écho entre le monde, donc je dirais de l'entreprise, pour ne pas dire le monde du patronat, et Emmanuel Macron. Ça, de ce point de vue-là, c'est plus qu'un écho. C'est donc la politique de l'offre avec cette idée que l'entreprise, c'est l'entreprise qui va en quelque sorte permettre de remettre la France en marche.
La voix de Michel Hofer, la spécialiste entre autres du patronat au moment de l'élection. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le macronisme, un nouveau mode d'exercice du pouvoir, va-t-il profondément transformer les structures de l'État? On en parle avec notre invité, le sociologue et historien Pierre Birnbaum, professeur émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur d'une biographie de référence sur Léon Blum, un portrait paru en 2016. L'auteur de Les sommets de l'État, paru en 77, retourne voir à sa tête avec Où va l'État? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir. Dans ce nouvel essai publié au Seuil, il se prête 40 ans après à une analyse du personnel politico-administratif perçu comme variable essentielle de l'État, ce sont ses mots, ou encore de son affaiblissement. Pensant trouver la fin de l'État, il constate contre toute attente que loin d'être gouverné par une oligarchie, la société française, fidèle au long terme de son histoire, demeure arc-boutée sur son État. Bonjour à vous, Pierre Birnbaum.
Bonjour.
Comment avez-vous procédé pour cette enquête d'abord? Vous nous dites analyse empirique du personnel politico-administratif. Comment avez-vous, quelle a été votre démarche et quel était votre objectif de départ?
Alors, ce sont deux questions un peu différentes.
Voilà, je garde la première. Comment avez-vous procédé?
Alors, de manière assez, un peu comme un autodidacte finalement, bien que je sois sociologue depuis bien longtemps, je n'ai pas vraiment procédé à de très gros travaux quantitatifs moi-même, bien que j'ai tout de même un peu bricolé des choses sur la composition des cabinets, du cabinet du président, du cabinet du premier ministre. Là, il y a quelques données que j'ai rassemblées moi-même. Et puis, c'est un ouvrage aussi de synthèse, peut-être. C'est-à-dire que j'ai, je crois, trouvé énormément de travaux réalisés par des collègues sociologues ou économistes qui sont souvent peu connus et qui m'ont convaincu de changer de thèse, puisque je pensais essayer de prouver l'affaiblissement dramatique de l'État, et je m'en inquiétais beaucoup. Et au lieu de vérifier cette piste, cette première piste, grâce aux quelques recherches empiriques que j'ai pu mener moi-même, mais également et surtout à l'ensemble des travaux réalisés par mes collègues, et qui sont souvent peu connus et pourtant de très grande qualité, on voit, me semble-t-il, que l'État résiste, même si cet État entretient des rapports avec l'économie, avec le patronat, comme ça, on vient de le dire, et c'est bien évident, et c'est bien normal, et dans toutes les sociétés, on a un rapport, l'État est obligé d'instaurer des rapports avec toutes les forces socio-économiques de la nation. Quelle que soit la politique que cet État va mener, et on ira la regarder de tout près, on va la surveiller dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, il n'empêche que ce sont deux choses qu'on peut distinguer. La nature de l'État et ce qu'il demeure du type de politique économique qu'il va mener aujourd'hui ou demain. Cette question, au fond, elle mérite d'être séparée. Ce sont deux perspectives différentes, et on peut essayer d'inférer une réflexion sur la seconde à partir de la nature de la première. Donc, je reviens aussi là, d'une certaine manière, à la seconde question que vous avez eu la gentillesse de me poser. Ce livre est un petit peu, peut-être de manière un peu triste, je pourrais dire, une sorte de fin de parcours, en tout cas d'étape du parcours personnel qui est sérieuse, qui est grave, puisque je reviens au fond, comme me l'a fait souligner, un de mes amis fidèles, sur deux ouvrages parus, l'un en 77 qui était Les sommets de l'État, et l'autre en 79, vous vous rendez compte, personne d'entre vous n'était né ou presque à l'époque, qui était Le peuple et les gros. Donc dans ce livre-ci, je croise les deux perspectives, c'est-à-dire une réflexion plus ou moins quantitative, mais en tout cas théorique, sur la transformation des élites et du système de circulation des élites, et puis le travail, au fond, sur les idéologies, sur les mythologies, et sur la manière folle, irresponsable, totalement mythologique, d'aborder la nature des détenteurs du pouvoir, on va y venir, j'imagine, dans un instant, qui est au cœur des populismes contemporains. Et je pense que ce sont les deux points de vue qui m'ont intrigué et qui m'ont conduit à me remettre à la tâche et à essayer à nouveau de réfléchir sur cette question du devenir de l'État.
Donc vous travaillez aussi à partir de vos propres travaux avec ce grand saut historique de 40 ans, si on repart de votre essai Les sommets de l'État paru en 77. Vous travaillez aussi à partir de vos propres intuitions, mais est-ce qu'il n'était pas un peu trop tôt, Pierre Birnbaum, pour faire ce premier bilan d'étape de ces nouvelles élites? Pas un peu trop tôt pour en juger? Vous défendez notamment une vision plutôt weberienne que bourdieusienne de cette sociologie des élites, mettant l'action sur l'action plutôt que sur la fonction, hein, et sur cette action plutôt que sur les origines sociales, les profils des membres qui composent cette élite. Est-ce que le livre n'est pas publié, écrit un tout petit peu trop tôt? On est moins d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Vous ne risquez pas un démenti dans les 4 années à suivre?
Alors je vais vous répondre de manière très très grossière et simple. C'est que l'idée de ce livre est bien antérieure à l'élection de M. Macron. C'est-à-dire que je trouve un peu étrange que l'on ramène ce livre à une réflexion sur ce que vous appelez le macronisme ou la place du président de la République dans la société française. Il se trouve que M. Macron a été élu président, mais une grande partie du matériel qui est réuni dans ce livre est totalement étrangère à la question de savoir en quoi M. Macron transforme la société française. Les premiers chapitres, ou le premier chapitre en effet, sur le politique, mais ça c'est bien normal, est une réflexion sur la manière, la mesure, dans quelle mesure au fond l'élection du président de la République et des députés tout de même, et de la législative, il y a un travail sur les députés, change ou non, et ça je pense qu'on peut le faire de manière très légitime tout de suite, ou très vite, dans les mois qui viennent, comme j'ai essayé de le faire, à partir d'une analyse socio-professionnelle des députés, des ministres, des membres des cabinets, on peut réaliser ce travail, l'assumer de ce point de vue. Et puis, néanmoins, l'ensemble des autres chapitres, ils sont quand même beaucoup plus nombreux, il en reste au moins 5, ne portant rien sur la période Macron en tant que telle, mais sont des chapitres qui portent à la fois sur le devenir de la haute fonction publique, sur le pantouflage, sur l'énarchie, sur la corruption, qui sont, et de manière comparative, puisque je remonte au moins à 20 ans, et puis j'ai une analyse comparative entre la 4e République, la 5e, le gouvernement Sarkozy, le gouvernement Valls, disons, il y a un effort tout de même de mise en perspective de l'étape que nous vivons aujourd'hui, et je ne voudrais surtout pas que ce petit livre soit simplement ramené à une étude trop rapide, comme vous l'avez la gentillesse de le dire, de M. Macron.
Alors justement, le macronisme, on nous fait croire que c'est une nouveauté en soi, mais ça s'inscrit dans toute une lignée, c'est pour ça qu'il y a
une
justification.
Vous y revenez tout
de même, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous nous prenez un peu à contre-pied malgré tout, Pierre Birnbaum, parce que depuis, sans parler de Macron, avec Macron, on a l'impression que c'est une accélération, mais depuis déjà longtemps, depuis l'ère Sarkozy notamment, mais même avant, on a le sentiment qu'effectivement l'État est en train de perdre de sa substance, est en train de perdre de son sens. Voilà. Non, mais vous disiez vous-même que vous partiez dans cette enquête avec cette idée. Là et que, contrairement à la plupart des chercheurs, vous avez trouvé des choses qui allaient contredire votre thèse et vous avez changé finalement cette intuition de départ pour nous dire non, l'État résiste aujourd'hui dans la société. Où voyez-vous que l'État résiste véritablement? Et en quoi, alors que le personnel politique change? Vous faites quand même un tableau des 10 professions les plus exercées par les députés élus en 2017, hein. Et on voit que les cadres du secteur privé sont très très majoritaires et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de politique traditionnelle.
Voilà, c'est ça la vraie question. C'est au fond la jonction qui devient difficile à l'étape où nous en sommes entre le système parlementaire tel qu'il a fonctionné en France et puis l'État. Il y avait toujours des points de rencontre grâce aux élections justement et des mécanismes de fusion entre la haute fonction publique et le personnel politique. Depuis au moins 30 ou 40 ans, un grand nombre de hauts fonctionnaires étaient devenus aussi députés, avaient été élus maires, et il y avait une sorte de lien entre ceux qui dirigent l'État et ceux qui avaient un ancrage très fort dans le local, au fond, les hauts fonctionnaires s'étaient eux-mêmes transformés en assistantes sociales du département. Prenez l'exemple de François Hollande. On a un HEC et un énarque, et qui en même temps est maire, conseiller municipal, qui a une très longue carrière politique au niveau le plus élémentaire, qui a une participation dans la vie politique, dans la très longue. Ce qui est en train de se produire, puisque vous voulez me ramener à nouveau au très court terme, c'est effectivement une sorte de disjonction entre le personnel politique parlementaire, qui, pour la plupart d'entre eux, la plupart des députés n'ont jamais même été députés, n'ont jamais exercé de mandat électoraux, et donc mettent un terme à ce que vos sociologues Guy Bourdivin, que vous citiez il y a un instant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Si, vous l'avez.
Oui, voilà. J'assure, tout à fait.
Considéré comme l'aspect essentiel de la réflexion sur le politique, c'est-à-dire la fameuse professionnalisation du politique qui s'appuie sur des capitales, le capital machin, le capital truc et le capital bidule. Et plus on a du capital, plus on est élu et plus on devient l'objet, au fond, de l'élément...
Maintenant, c'est capital au sens propre, peut-être.
Eh bien, écoutez, je ne le crois pas, en tout cas... Il y a en effet une partie importante des députés. Ont-ils du capital? Je n'en sais rien. C'est vous qui le prouverez, c'est vous qui analyserez. Ils ont une implantation davantage dans le monde économique et, disons, dans le marché, du côté du marché. Là, il y a un véritable changement. C'est-à-dire que au niveau du gouvernement, rien ne change, puisqu'on a de plus en plus de hauts fonctionnaires, non pas dans le gouvernement, comme l'a dit cette rubrique publiée dans Le Monde par des hauts fonctionnaires. Il y a de moins en moins de gouvernements, de moins en moins de hauts fonctionnaires au niveau du gouvernement. Ça, c'est un changement par rapport à la République gaulliste ou à la République socialiste, qui, au fond, était dans le long terme de l'emprise de la haute fonction publique sur le politique. Il n'y a pratiquement plus de hauts fonctionnaires dans le gouvernement. Au contraire, les hauts fonctionnaires, comme auparavant, peuplent les cabinets ministériels. Mais là, il n'y a rien de nouveau. C'est le cas depuis les gaullistes et également c'était le cas sous Mitterrand. Ce qui change, c'est au niveau, disons, du Parlement, une transformation profonde du personnel politique qui est liée à une situation de crise. C'est-à-dire, effectivement, la crise des partis politiques, que l'on trouve aussi en Italie, la crise, au fond... de la carrière politique et le fait que les anciens notables, les anciens députés de la 3e, de la 4e et même de la 5e, les enseignants, les médecins, les journalistes, ceux qui étaient implantés au niveau local, disparaissent presque, enfin, sont très largement sous-représentés dans le nouveau personnel politique. Mais c'est lié, effectivement, à l'irruption de la République en marche, c'est-à-dire, au fond, à l'exclusion des grands partis politiques qui, eux, continuent à être implantés, mais qui, d'un seul coup, se voient marginalisés sur la scène politique. Et c'est ça, au fond, qui est le plus dramatique. C'est il est indispensable de redonner force aux partis politiques, à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, pour qu'en effet, ceux qui vont les représenter, ceux qui les représentent, détiennent encore cette fonction d'assistante sociale, transmettent les demandes de la population, des citoyens dans leur immense diversité, vis-à-vis de l'État. Mais on a un État qui résiste. Oui, il résiste. Ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, c'est pas moi qui le prouve à moi seul. Ce sont mes collègues, comme Philippe Bèze, Luc Rouban et le IDEC. Mais précisément, dans la mesure où ceux qui le dirigent font, dans l'immense majorité, leur carrière au sein de l'État. Si vous regardez une analyse, comme j'ai essayé de le faire dans ce petit livre, des énarques, de ceux qui dirigent l'État depuis maintenant le début de la 4e République, enfin en tout cas les années 50, on voit ici que plus de 80-90% des énarques en poste sont demeurés toute leur carrière dans l'État. Que le nombre de pantouflages dont on... nous rabat les oreilles, et qui est effectivement une situation dramatique qu'il faut examiner de plus près, qu'il faut limiter, qu'il faut contrôler pour empêcher les conflits d'intérêts. Bien sûr, il faut le faire, et la commission de déontologie ne le fait pas assez, et tout ça ne va pas bien. Mais au fond, ce qui tient, c'est que les énarques restent des fidèles de l'État, des gardiens de l'État, comme a pu l'énoncer William Jeunies, c'est-à-dire des personnes qui demeurent attachées aux idéaux du service public, de la puissance publique, de l'intérêt général, à tous les niveaux de la fonction publique, depuis l'instituteur, jusqu'aux membres du Conseil d'État, il y a, et on néglige beaucoup trop cela, pour partir dans les fantasmes sur les gros, les nantis, les bourgeois, la caste, les intouchables, en dénaturant la réalité de l'État, en remettant en question la légitimité de ses serviteurs, et c'est grave à mon sens, et du même coup on alimente un populisme ridicule qui s'attaque au fond à ce qui demeure le socle de cette société, qui protège précisément des populismes, tant mieux que cet État résiste. La vraie question c'est que cette résistance de l'État, indéniable à mon sens, prenez l'exemple des conseillers d'État, sur les 340 ou 360 conseillers d'État en poste aujourd'hui, il y en a près de 140 qui n'ont même jamais quitté le Conseil d'État. Il y en a 120 qui sont restés dans l'appareil d'État, passant dans d'autres fonctions à l'intérieur de l'appareil étatique. Et il y en a 30 qui ont pantouflé. On estime qu'il y a en tout, dans l'ensemble des énarques en poste, 8% des énarques qui ont quitté l'État. 8%. C'est-à-dire que les fonctionnaires, ceux qui ont en charge l'État, à tous les niveaux, et il faut les saluer, il faut sans cesse, et on ne le fait pas du tout, et c'est dramatique, sur les 5 500 000 fonctionnaires, une enquête récente d'il y a un an, publiée par Le Monde, montrait que sur les 5 500 000 fonctionnaires en poste il y a un an, il y en avait, je crois, 500 qui avaient pantouflé, qui avaient quitté l'État. C'est-à-dire, on est là face à des chiffres ridicules.
Alors, est-ce que tout ça, c'est parce que ces gardiens de l'État sont portés par un idéal peut-être plus fort que tout, ou, si on essaye d'être un peu pragmatique, de se dire que affaiblir l'État, ce serait peut-être pas dans l'intérêt de cette nouvelle élite du pouvoir, comme vous la nommez, qui, une fois le pouvoir conquis, acquis, entend bien l'exercer. Or, quel intérêt à avoir entre ses mains un tel pouvoir si l'État est affaibli ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'avoir un État fort, comme une entreprise forte du CAC 40, dans une logique de concurrence, dans une logique de concurrence et dans une logique de marché, Pierre Birnbaum.
Écoutez, là j'ai vraiment du mal à vous répondre, car je suis tout à fait à l'extrême opposé d'une vision telle que celle que vous l'énoncez. Il est possible qu'en effet, mais après tout c'est légitime, que les hauts fonctionnaires soient heureux et fiers du métier qu'ils exercent, et qu'ils souhaitent que l'État, dont ils sont les représentants et le vecteur essentiel, poursuive sa trajectoire, qui est une trajectoire qui s'ancre dans un long terme historique de plusieurs siècles, et qu'ils soient fiers, en effet, de poursuivre cette finalité de service public au service de l'ensemble des citoyens, même s'ils en tirent certains avantages eux-mêmes, qui ne sont pas non plus tellement considérables comme on a pu le dire. Ce sont la haute fonction publique ne détient pas, sauf quelques-uns d'entre eux apparemment, des salaires si mirobolants.
Je parle vraiment de conception de l'État, conception d'un État fort. Pourquoi?
Oui. Conception d'un État fort. Pourquoi? Tout simplement pour mettre en œuvre le service public, la puissance publique, l'universalisme de l'espace public, la défense de l'espace public à la Habermas. Vous savez qu'Habermas est un philosophe allemand, mais en fait c'est un philosophe français. C'est-à-dire que c'est le seul au monde à défendre l'espace public à la française. Il construit entièrement sa théorie de l'espace public à partir de l'exemple français, c'est-à-dire d'un espace public mis en œuvre par un État fort dont les citoyens rejettent dans l'espace privé toute forme d'allégeance religieuse et même économique. Et c'est cette différenciation que célèbre Habermas qui rend possible le souhait, en tout cas, la volonté, en tout cas, même si la réalisation pêche toujours, bien évidemment, on est loin du type idéal, on est loin du modèle, mais que l'ambition soit toujours là de construire un espace public mis en œuvre par un État fort.
Alors ça, c'est vrai, vous dites, bon, les fonctionnaires sont toujours là, ils ont sans doute toujours foi dans l'État, mais il y a aussi la politique qui est conduite. On ne peut pas dire que cette politique, disons, aille dans le sens d'un développement de la notion de service public au sens où on l'entendait, en tout cas traditionnellement. Cette notion évolue. Comment vous percevez cette nouvelle façon de voir le service public? L'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas là une mutation importante?
Où il y a une mutation, et il faut la regretter, c'est dans le déclin des services publics. C'est-à-dire que nous constatons tous, c'est-à-dire qu'en effet, les postes ferment au niveau local, on privatise les grandes entreprises, les écoles privées deviennent de plus en plus nombreuses au détriment des écoles publiques, l'appareil d'État est attaqué. La logique d'un État fort ne s'applique pas de manière aussi solide qu'auparavant. Il y a des formes de délitement de l'État qui sont incontestables et que vous soulignez avec juste raison. Il y a un grand nombre de missions de service public qui relèvent de l'État, qui sont assumées par des entreprises privées. Il y a l'exemple de la police privée dont je parlais l'autre jour, qui est dramatique, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une police de l'État, on a parfois au niveau local des polices privées. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste.
Mais ça met pas un bémol par rapport à votre raisonnement opinion.
Bien évidemment. Il n'y a nulle naïveté dans ma thèse. Mais simplement, face à l'air du temps dominant que l'on trouve partout dans les mass médias ou ailleurs, qui consiste à dire, ah ben, Bourdieu nous a montré, etc., que le capital est là et que plus on en a, etc., et que l'aristocratie c'est une caste et que la caste c'est une aristocratie et que les gros roulent. Bon, face à cette idée que au fond, le politico-administratif est en train de perdre la main sur la société française. Je pense qu'il est bon d'essayer de résister un peu, quitte à peut-être probablement accentuer une thèse qui mériterait d'être largement gommée, largement nuancée. Évidemment, il y a tout un ensemble de caractéristiques qui montrent que cet État fort perd des plumes. Il en perd de plus en plus, malheureusement. Mais comparé à d'autres États du monde, et la comparaison à nouveau vaut raison, comparé à l'Italie dont vous avez parlé il y a un instant, la société française reste encore ancrée sur cet État qui lui sert de légitimité et qui peut-être, espérons-le en tout cas, le protège et continuera à le protéger des formes multiples de populisme, de mobilisation idéologique, de messianisme religieux qui se répandent à travers le monde et que l'État tiré au fond des lumières à la française, l'État universaliste qui a la prétention, même s'il n'y parvient pas toujours, bien évidemment, d'être l'incarnation de la raison, et il en est loin, c'est évident, et bien que cet État, néanmoins, puisse continuer à protéger ses citoyens.
Pierre Birnbaum est notre invité jusqu'à 13h30 pour son nouvel essai « Où va l'État ?» Essai sur les nouvelles élites du pouvoir qui vient de paraître au Seuil.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Pierre Birnbaum, dans Où va l'État, vous soulignez aussi une multiplication des transferts publics-privés entre le monde des affaires et les grands corps de l'État. Et vous vous interrogez sur la question des valeurs. Quelles sont ces valeurs du privé que ces hommes et femmes transportent éventuellement avec eux et qui pourraient, à l'avenir, dénaturer le sens de l'État? On peut interroger cette notion d'efficacité qui revient de plus en plus dans le langage de la haute administration et du politique. L'efficacité avant tout, on l'a encore entendu récemment autour de la réforme du statut des traite des cheminots avec cette envie d'aligner ces régimes sur ceux du privé, cette question de l'inéquitabilité et éventuellement de l'efficacité de l'action de l'État. Est-ce que pour vous, cette culture entre en conflit avec celle de l'intérêt général dont vous nous louiez à l'instant, la survivance?
Alors, je vais me cacher derrière les travaux de mes collègues à nouveau. Et les meilleurs travaux de mes meilleurs collègues vont tous dans le même sens, à savoir que les hauts fonctionnaires qui ont acquis la maîtrise de ces technologies, du management, de la gestion, ont la capacité d'introduire ce type de comportement, ce type de mise en œuvre de politique publique, en conservant, en s'efforçant de conserver la logique de l'État. Il n'est pas impensable, au fond, que l'État se transforme. Il n'est pas impensable que l'État cherche à devenir plus efficace. Il n'est pas impensable que l'État réintroduise des procédures de, par exemple, de validation au mérite d'un certain nombre de fonctionnaires. Ce qui compte, au fond, c'est dans quelle mesure est-ce que les fondements essentiels du service public sont remis en question. C'est pas certain du tout. Si vous regardez les travaux de Philippe Bez, qui sont tout à fait remarquables dans ce sens, de l'EIDEC et d'autres, lisez de près la revue de management public, tous les auteurs essaient de montrer, ou la plupart d'entre eux, que les hauts fonctionnaires, dont plusieurs d'entre eux, des proportions très fortes et croissantes, sont passés maintenant par HEC ou ailleurs, où ils ont acquis cette science, au fond, du management privé, tous ces travaux vont plutôt dans le sens selon lequel ce personnel de la haute technocratie utilise cette nouvelle vision au service de l'État, mais ça n'est pas certain, et votre question est juste, il va falloir regarder de plus près demain quelles sont les conséquences imprévues de l'introduction trop forte probablement de ces technologies. Il me semble tout de même que, et c'est pratiquement le dernier chapitre de ce livre, ce qui est le plus grave, c'est moins ce passage de l'un à l'autre, parce que les hauts fonctionnaires peuvent exercer des rôles différents. Ce qui compte, c'est le rôle exercé à un instant T de la carrière, qui détermine ou non le type d'action. Mais ce qui est grave et ce qui commence malheureusement à surgir, c'est la corruption. Et le dernier chapitre de ce livre met l'accent sur une certaine corruption qui se fait jour au sein de l'appareil d'État.
C'est-à-dire, quel genre de corruption ?
Bien, par exemple, celle qui a touché un certain nombre de préfets ou de hauts fonctionnaires, comme Claude Guéant. C'est-à-dire, on a là des préfets, on a là des énarques qui, d'un seul coup, sont pris la main dans le sac, qui sont dans le capital, comme dirait l'autre, qui s'en mettent plein les poches. Alors là, c'est dramatique, puisqu'en effet, vous avez une des différenciations de l'État au niveau le plus élémentaire de la haute fonction publique. Prenez cette préfète de la Creuse, regardez les attendus du tribunal. Ces attendus sont merveilleux. Elle est condamnée très sévèrement parce qu'elle a porté atteinte à l'image de l'État qu'elle représente comme préfète. Et je pense que c'est là, peut-être, qu'il faut surveiller les choses d'encore plus près, c'est-à-dire dans quelle mesure un certain nombre de hauts fonctionnaires cèdent à l'ère du temps, c'est-à-dire au marché, à la culture du privé, qui l'emporte dans la plupart des sociétés, aux États-Unis, en Angleterre, dans un grand nombre de sociétés. C'est effectivement le marché et l'argent qui s'imposent de plus en plus. En France, pour l'instant, les hauts fonctionnaires semblent tout de même assez résistants et maintenir un comportement celui qu'on attend, c'est effectivement de serviteurs de l'intérêt général.
Et parmi ces collègues que vous citez et qui se montrent parfois plus inquiets que vous, Pierre Bienbaume, il y a aussi le sociologue Antoine Vauchez, auteur avec Pierre France de Sphère publique, intérêt privé. Il est directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1. Et il constate aussi que la frontière entre public et privé est en train de se brouiller et que c'est pourtant une frontière essentielle de la démocratie.
Le modèle de gestion du privé est devenu un des modèles de l'action publique. Du coup, évidemment, ce brouillage s'est renforcé. C'est aussi le développement du principe de libre concurrence qui fait que, eh bien, les acteurs publics sont soumis à la libre concurrence de la même manière, à l'exigence de concurrence, de la même manière que les acteurs privés. Ça, c'est en partie aussi des transformations qui nous viennent pour le coup de la construction européenne et de l'émergence de ce puissant marché commun construit autour de la liberté de concurrence. Donc il y a un ensemble de transformations de l'action publique qui viennent à la fois de ce tournant néolibéral, du laboratoire européen qui transforme aussi le rapport de l'État au marché et qui effectivement a tendance à brouiller les frontières et à transformer les modalités de l'action publique.
Antoine Vauchez, qui était l'invité de la Grande Table l'an passé, Pierre Bienbaume, est-ce qu'il y a une assaut aussi de cette technocratie européenne ? Est-ce que vous constatez, malgré tout, ce brouillage constant des frontières ?
Alors, ce livre est remarquable. Et ses résultats font frémir. Ils sont tellement fort et tellement inquiétant quand on regarde de très près cet ouvrage, lorsqu'on voit à quel point effectivement la zone grise entre le privé et un certain nombre de fonctionnaires s'étend, comment un certain nombre d'énarques ou de membres de conseils de grands corps passent dans le privé et continuent à travailler avec leurs collègues demeurés dans le public et leur préparent la copie. Là vraiment, on est tellement troublé que c'est un choc que de voir. Donc ce livre est tout à fait intéressant. Mais il me semble que c'est l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Ça concerne une infime minorité des hauts fonctionnaires. Et ce livre et les résultats qu'il apporte est tout à fait bouleversant. Mais je le disais il y a un instant, si vous prenez les 360 membres du Conseil d'État, il y en a que même pas 10% qui pantouflent dans le privé. Le pourcentage de personnes issues de la haute fonction publique qui fait ce va-et-vient, qui entre, qui passe au fond au service du privé est extrêmement limité. Et là-dessus, je le dis avec beaucoup de prudence, il faudrait le vérifier, je ne crois pas qu'il y ait de chiffres dans le livre de Vauchez sur le nombre de personnes. Il donne un grand nombre d'exemples qui sont bouleversants. Mais la proportion rapportée aux membres des grands corps ou à l'ensemble de la fonction publique, elle n'est pas donnée, je ne le crois pas. Et c'est cette proportion qui est davantage significative. Ce qui manque dans mon propre ouvrage, je pense, et vous avez raison de le souligner, c'est l'Europe. C'est au fond quelles sont les conséquences des directives européennes sur la nature de l'État, quelles sont les conséquences de la construction disons, des institutions européennes et du principe de supranationalité, au fond, sur le devenir de cet État. C'est un point obscur de ce petit livre. Cela aurait mérité, évidemment, des recherches que je n'ai pas faites, et je le regrette. Je ne sais pas encore quel aurait été le résultat de cette observation.
C'est peut-être le livre d'après, et pour reprendre le titre de celui-ci, « Où va l'État et la République ?» Pierre Birnbaum, vers quel horizon marche-t-elle ? Pas si différent, d'après vous ?
C'est un souhait que j'exprime très vivement, que cet État républicain conserve ses structures, résiste au populisme, aux visions mythologiques qui le ramènent au gros, à l'oligarchie, à la caste et au capital. Je pense qu'il y a, s'il y a un État en France qui maintient une différenciation à l'égard du fameux capital économique, c'est l'État à la française. S'il y a un État qui résiste un peu à l'emprise du religieux, c'est l'État à la française. Et le souhait que je peux exprimer, c'est que cet État, qui a tout de même été quand même très protecteur des citoyens à travers son histoire, conserve sa logique face à des enjeux. On est en train de le voir en Italie, de sociétés qui n'ont pas précisément pu construire un État-nation différencié, et l'exemple italien en est le meilleur. Il n'y a jamais eu la possibilité, face au régionalisme, face à l'emprise de la partitocratie, face à l'emprise du catholicisme, l'Italie n'a jamais pu construire un État à la française, et au fond, les soubresauts que nous sommes en train de vivre en sont peut-être la conséquence.
Plus qu'un souhait, une mise en garde. Juste, je cite cette phrase, et Antoine Mercier, la dernière question, cette dilution relative de l'État, quoique largement exagérée, se révèle comme un terreau favorable à de nouvelles formes de populisme qui partent en guerre contre une supposée oligarchie. Antoine ?
Oui, vous croyez encore dans l'État, Pierre Birnbaum, mais peut-être que c'est quand même aujourd'hui l'état d'esprit général qui change. Vous dites les conseillers d'État ne vont pas pantoufler dans le privé. Maintenant, on dit que les gens pantouflent au Conseil d'État. C'est là où il y a un renversement peut-être de facteurs dans la valorisation que vous apportez à l'État. Et s'il n'y a plus cette valorisation, est-ce qu'il reste encore un État fort et un État capable de tenir son rôle ?
Il me semble que cette valorisation demeure et que l'État est toujours là et qu'il résiste.
Merci beaucoup à vous, Pierre Birnbaum. Où va l'État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir. Votre essai vient de paraître aux éditions du Seuil et vous revenez nous voir très vite pour le prochain qui prendra l'Europe en compte donc sur cette question. Quand une grande table se referme à l'antenne, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr et elle se décline sur les réseaux. Hâte la grande table se réécoute à souhait en vous abonnant si vous le souhaitez au podcast de l'émission. Merci à Jean-Christophe Brianchon, à Henri Leblanc et à Clémence Marie pour la programmation de cette émission, à Chloé Leblon pour la préparation avec l'aide précieuse de Maxime Morin. Un énorme merci à notre force vive, Bertie Bourdon, qui nous a accompagnés depuis la rentrée. À la réalisation aujourd'hui, Charlotte Roux avec Alex Dang. Très bel après-midi à tous et à demain pour une grande table spéciale. Isabelle Huppert, notre invitée.